Dans ce lieu pour louer le Seigneur. Merci d'être venu pour la parole aussi. La parole est là pour nous aider à marcher sur le chemin où le Seigneur nous invite à aller. Alléluia. Nous allons lire ce matin dans 2 Chroniques. J'ai cru que notre frère allait prendre le même passage. 2 Chroniques, chapitre 29 et le verset 1er. 2 Chroniques 29, verset 1er. Il nous est dit, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. C'était toujours la référence. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit, « Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. » Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est une bonne idée. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alléluia. Nous voyons combien le Seigneur est merveilleux. Il y a eu bien des moments où Israël a perdu pied, où il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Ils ont, comme il nous est dit là, ils ont tourné le dos à l'Éternel. Et vraiment, c'était d'une façon terrible que cet homme arrivé, Ézéchias, qui devenait roi à l'âge de 25 ans, il avait du pain sur la planche, comme on dit. Hein. Il a quand même régné 29 ans. Alors, il a eu le temps de faire du travail pour le Seigneur. On ne sait jamais combien de temps le Seigneur va nous donner pour faire du travail pour son service. Nous ne savons pas. Mais, en tout cas, dès que nous avons compris que le salut nous était accordé, eh bien, la première des choses que nous avons eues dans notre cœur, c'était « Seigneur, je veux te servir, je veux t'aimer, je veux t'adorer et je veux faire connaître l'Évangile autour de moi ». Je pense que ça a été aussi votre cas. En tout cas, c'était vraiment, ça bouillonnait dans notre cœur. Et nous ne voulons pas le mettre au passé en disant, tout cela, c'était extraordinaire. C'était le temps où le Seigneur m'a visité. Mais aujourd'hui, c'est aussi le temps où le Seigneur peut nous visiter, comme il a visité Ézéchias, le roi de Juda. Alléluia. Oui. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Ézéchias va considérer la situation. Qu'ont fait leur père? Au verset 6, il nous est dit, « Ils ont détourné leur regard du tabernacle ou de la demeure de l'Éternel. Et ils lui ont tourné le dos, carrément. Détourner le regard, c'est déjà terrible. » Il y avait le tabernacle de l'Éternel, la demeure que Dieu habitait. Et là, au lieu de regarder vers ce lieu qui pouvait leur faire du bien, ils ont détourné le regard et ensuite ils ont tourné le dos carrément. Ça, c'est une conversion vraiment en sens contraire. Hein. Tout d'abord, ce fut un regard qui s'est éloigné du tabernacle, de la tente de la rencontre. Ensuite, on tourne le dos, on ne s'en soucie plus, on va en sens contraire. Et c'est vrai que cela est arrivé dans certaines vies. Des gens qui ont bien marché au début avec le Seigneur, et puis ensuite, il y a eu des problèmes en cours de route, il y a eu quelques difficultés, et petit à petit, on va commencer à aller voir ailleurs, un peu comme quand il y a un troupeau, vous voyez, c'est souvent ce qui arrive. Dans un troupeau, il y a des vaches ou comme cela qui vont voir un peu à l'extérieur. Non pas qu'elles puissent quitter l'enclos, non, oh non, elles sont dans l'enclos, pas de problème. Et comme nous, eh bien, nous sommes encore dans le rassemblement des frères et des sœurs. Mais nos regards commencent à se tourner vers d'autres choses. Au lieu de regarder ce que le Seigneur nous donne, regarder cette belle herbe verte que le Seigneur va donner à ce troupeau, eh bien, on regarde autour et il semble que l'herbe à l'extérieur est meilleure que celle qui est à l'intérieur. Alors on va commencer à chercher à passer le museau sous les barbelés, quitte même à se faire mal. Eh bien voilà, mais maintenant les hommes ont trouvé aussi une solution avec les clôtures électriques. Une bonne décharge, ça remet tout en ordre. Mais le Seigneur ne fait pas cela avec nous. Il vient pas nous envoyer des décharges. Il vient nous amener tout son amour et faire en sorte que nous nous rendions compte que là où il y a les enfants de Dieu, à la tente de la rencontre, eh bien, il peut y avoir une riche bénédiction pour tous ses enfants. Alors, eh bien, c'est un peu ce qui se passe parfois dans la vie. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont fait demi-tour et là, tout va mal. Tout va mal. Un peu comme si on était sur l'autoroute et que tout à coup, eh bien, on fasse demi-tour. Une fois, j'ai entendu le GPS. Moi, j'en ai pas de GPS, mais qui disait sur l'autoroute, hein, faites demi-tour, parce que bon, ils avaient choisi une autre direction. Faites demi-tour. Vous vous rendez compte, le danger sur l'autoroute. Hein, si vous obéissez au GPS, et cela est arrivé chez certaines personnes, elles ont fait carrément demi-tour et c'était après l'autoroute à contresens. C'est terrible. Le Seigneur veut nous avertir et nous dire ça, ce n'est pas la bonne direction. Verset 7, ils ont même fermé les portes du portique. Ils ont fermé la porte à clé carrément. Et ils ont éteint les lampes. Donc plus personne ne voyait la lumière. Et là, eh bien, ils auraient pu au moins laisser la liberté à ceux qui voulaient rester fidèles pour continuer au temple. Mais non, ils vont éteindre les lampes. C'est l'opposition totale. On ferme les portes. Et c'est certainement marqué défense d'entrée. Et le Seigneur ne veut pas que les choses soient ainsi. Ils vont dire, mais à quoi bon servir Dieu? Qu'est-ce que cela nous apporte? Parfois, cela nous a traversé l'esprit. À quoi cela sert-il de servir Dieu? Je ne vois pas d'exaucement à mes prières. Alors, pourquoi est-ce que je prierai? Je ne vois pas je n'entends pas Dieu me répondre. Mais Dieu a prévu quelque chose pour vous, pour chacun en particulier. Et parfois, si nous n'avons pas de réponse tout de suite, ne faisons pas comme les enfants qui trépignent et qui disent « maintenant, je veux maintenant ». Ce n'est pas aux enfants de commander, c'est aux parents de décider quand ce sera la réponse. Mais les enfants sont un peu trop pressés parfois. Alors, eh bien, ils ont éteint les lampes. Il restait peut-être même encore de l'huile dans ces lampes, mais on va tout éteindre. Tout éteint. Et là, maintenant, on ne veut plus rien savoir. On va même pas garder une lampe témoin. Un peu comme il était dit dans un poème de Victor Hugo, La conscience, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est vrai que là, Caïn avait péché et avait tué son frère. Et il y avait chez lui certainement toujours ce remords, cette grande difficulté à aller dans la vie parce qu'il y avait ce crime qui lui revenait chaque fois. Et Dieu le protégeait, mais Caïn n'a pas voulu rester sous la main de Dieu. Et voilà que une lampe non alimentée se serait vite éteinte. C'est vrai, ces lampes, si personne n'était venu mettre de l'huile et surveiller qu'il y ait encore cette flamme, eh bien la lampe se serait vite éteinte. Et c'est ce qui nous arrive parfois. Nos lampes s'éteignent et nous avons besoin d'être renouvelés dans la vie du Saint-Esprit. Il faut vraiment que nous puissions reprendre courage en nous appuyant sur l'Éternel. Dans Jean chapitre 3, verset 19, il est dit « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Ça, c'est terrible. Préférer les ténèbres à la lumière. Je ne sais pas si on nous donnait le choix pour nous, eh bien, je crois que nous ne préférerions pas les ténèbres. La lumière, c'est tellement beau. Regardez un lever de soleil, même un coucher de soleil, c'est beau. C'est là encore la lumière. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et c'est pour cela qu'ils ont préféré ces choses-là, parce que tout était bien couvert, plus personne ne voyait ce qui se passait, car quiconque fait le mal est la lumière, et c'est bien vrai. Alors, plus de parfums, plus d'holocaustes au tabernacle. Nous l'avons lu tout à l'heure avec notre frère, il y avait les holocaustes, il y avait les sacrifices pour que le peuple soit béni, et c'est vrai, le sang a été répandu sur le linteau des portes pour que Israël ne soit pas frappé. Et là, eh bien, il n'y avait plus d'holocauste au tabernacle, plus de parfum, rien n'attirait. Et ailleurs, oui, mais pour d'autres dieux. Alors, on ne se détourne pas sans raison. C'est un signe d'infidélité. Et les conséquences de leur péché. Alors, au verset 8, il est dit, « Dieu les livre au trouble. Plus rien n'est clair pour eux. » C'est l'angoisse. Donc, là, il y a vraiment une eau trouble. Et quand on est en eau trouble, on ne sait pas trop vers quoi on va. On préfère quand même boire de l'eau bien, de l'eau fraîche, bien claire, que de l'eau trouble que l'on trouve dans certaines rivières ou bien dans des fleuves. Alors c'est encore pire. Mais là, le Seigneur veut nous offrir une eau vraiment limpide, une eau claire, une eau que l'on peut vraiment boire avec bonheur. Ce ne sera pas l'angoisse, mais ce sera au contraire la bénédiction pour notre corps. Et là, c'est la désolation, un grand chagrin, une douleur profonde. Oui, le chagrin est immense parce que tout a été fermé, tout a été abandonné. Le chagrin est là et la désolation, donc plus rien vraiment ne va. Et dans notre vie, il en est parfois ainsi, il semble que tout va de travers. Et nous disons, mais Seigneur, que faut-il faire? Eh bien, le Seigneur nous dit, il faut revenir. La moquerie des ennemis, voyez, Satan ne sera jamais le dernier à rire de nous après nous avoir fait pécher. Il va chercher à nous faire tomber dans le péché. Et ensuite, eh bien, il vient nous trouver et nous dit, mais tu as vu ce que tu as fait? Tu te rends compte, tu es vraiment le pire des hommes, la pire des femmes. Tu es tombé dans le péché et maintenant tu n'arrives plus à t'en sortir. Alors, il vient nous enfoncer encore un peu plus, ça, c'est son bonheur. Eh bien, n'ayons aucune crainte. Quand l'ennemi vient se moquer de nous, eh bien, nous pouvons dire, nous avons un défenseur, alléluia. Jésus est notre défenseur, il est notre bouclier, il est notre rocher. Il y avait encore, verset 9, l'épée et la captivité. Les décisions humaines avaient primé lors de l'abandon volontaire de Dieu. Mais maintenant, Dieu prouve qu'il est le Tout-Puissant et il n'y a plus d'espoir humain de s'en sortir. Alors, eh bien, il va montrer qu'il est le vivant. Il est grand temps d'agir et pour nous, cela est aussi un peu pareil parfois. Ézéchias sera l'homme choisi par Dieu pour cette tâche. Est-ce que ce matin, nous nous sentons investis d'une bénédiction céleste? d'une grâce céleste, d'un l'amour de notre Sauveur sur nous. Oui, nous pouvons être choisis par Dieu pour une tâche extraordinaire. Bien commencer notre vie chrétienne, c'est formidable, mais bien la continuer, c'est aussi formidable. Alléluia. Marcher sur le terrain que le Seigneur veut nous montrer. Alors Ézéchias commence bien son règne. Il va tracer un trait sur la vie de son père Akaz. Et si on regarde un peu la vie de Akaz, c'était désastreux. Il y avait l'idolâtrie, il y avait le désastre complet. Et il n'en est même pas tellement parlé de Akaz ensuite. Il est question de sa mère, mais Akaz, eh bien, c'était le passé. Je ne veux pas, il va se dire, mais je ne veux pas suivre le mauvais exemple de mon père. Cela est toujours possible de ne pas suivre le mauvais exemple. Vous allez me dire, moi je suis dans une famille où il n'y a personne de converti. Mes frères, mes sœurs, tous ceux qui m'entourent sont inconvertis. Et je ne peux pas arriver à faire le bien parce que tous sont contre moi. Mais le Seigneur nous dit que c'est possible de marcher avec lui, même dans des circonstances pareilles. Oh oui, on connaît certainement, et peut-être c'est votre cas, les personnes qui sont les seules converties dans leur famille. Et c'est dur, on prie pour ceux qui nous entourent, mais ils sont toujours pareils, jusqu'au jour où cela viendra, où la réponse du Seigneur sera là. Et puis, avec l'hérédité, cela peut arriver aussi qu'on ait toutes sortes de difficultés. Mais nous devons rompre l'hérédité et dire, Seigneur, toi, tu es celui qui vient pour me bénir. Et ce n'est pas une excuse que l'hérédité. Parfois, eh bien, nous plions sous le poids de l'hérédité. Oui, tu es comme ça parce que ton père était comme ça. Tu es comme ça parce que ton frère était comme ça. Et parfois même on a des problèmes à cause de nos frères, ou comme cela, parce qu'ils ont commis des choses qui n'étaient pas bonnes. Alors, connaissait-il, Ézéchias, l'histoire de David, qui avait vécu quand même 10 générations avant lui? Est-ce qu'il connaissait cette histoire? C'est vrai qu'ils n'avaient peut-être pas autant de livres que nous maintenant, mais malgré tout, c'était connu que David avait été un homme fidèle. En tout cas, il nous est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas aux yeux des hommes, hein, aux yeux de l'Éternel. Et les yeux de l'Éternel sont des yeux qui nous regardent d'une façon extraordinaire, hein, non pas avec la condamnation, non pas avec reproche constamment, mais des yeux remplis d'amour. Et là, il nous est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et Dieu voulait le visiter. Entièrement, comme avait fait David son père. Alors, c'était la grande référence. Et dans la course, il faut un bon départ. C'est vrai. Là, en ce moment, il y a la course des 20 km de Lausanne, aujourd'hui, je crois, hier puis aujourd'hui. Et il faut un bon départ. Et bien sûr, il faut la suite. Mais le bon départ doit être là quand même. Ézéchias va donc agir rapidement. L'idée du diable, c'est, écoute, tu vas faire cela demain, parce qu'aujourd'hui, tu vois, il est un peu tard. Non, tu vas t'engager pour le Seigneur demain. Et le Seigneur nous dit, non, c'est aujourd'hui que tu dois t'engager. Ce n'est pas demain, parce que l'ennemi, pendant la nuit, vient semer toutes sortes de choses, et le lendemain matin, eh bien, tout est facilement oublié. La première année de son règne, le premier mois, eh bien, c'est là que Ézéchias va agir. Certainement, avant d'être nommé roi, son cœur devait déjà bouillonner. Ah oui, parce que son père marchait de travers. Et c'était difficile pour lui de voir cela, pas que pour lui, pour tout le peuple d'Israël. Et son cœur devait bouillonner, lui qui était pour l'Éternel, qui voulait servir l'Éternel. Il y avait déjà quelque chose dans son cœur. Il devait lui tarder d'agir. Est-ce que cela nous arrive encore, que nous ayons vraiment hâte d'agir? Ah, Seigneur, si je pouvais faire ceci maintenant, eh bien, oui, je désire le faire. Seigneur, remplis-moi de ton esprit afin que je le fasse. Et il a su attendre l'heure de Dieu. Et parfois, nous sommes un peu impatients, mais le Seigneur va nous faire attendre quelque peu. Au verset 20, il continuera à commencer, on ne l'a pas lu, mais tôt sa journée, de bon matin. Ah, parfois c'est bien de pouvoir commencer de bon matin pour se présenter à Dieu, faire sonner son réveil quelques minutes avant pour pouvoir lire la parole, pour pouvoir prier avant de partir au travail. Et c'est vrai, pour les holocaustes, pour les sacrifices, tout cela, bien, il devait le faire de bon matin. Et les chants, les actions de grâce, les transports de joie doivent venir sur nous déjà de bon matin. Oui, que je me réveille pas en me disant toujours « qu'est-ce que je pourrais faire contre telle et telle chose ?» mais « qu'est-ce que je pourrais faire pour servir le Seigneur ?» Ça, c'est bon. La première chose, c'est le nettoyage. Alors, ce n'est jamais facile que le nettoyage, hein. Vous en savez quelque chose, mesdames et même messieurs, parce que maintenant, eh bien, il faut aussi que chacun mette la main à la pâte, étant donné en plus que bien souvent, dans les foyers, il y a le papa et la maman qui travaillent, alors chacun doit mettre la main à la pâte. Le nettoyage, ce n'est pas toujours facile. Il nous est dit, verset 3, « Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. » Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Je m'imagine, là, vous avez des portes qui ne font pas de bruit, c'est beau, c'est bien. Mais le temple, la maison de l'Éternel, là, était vraiment abandonnée, nous dit la parole de Dieu. Et dur pour ouvrir les portes. Ça devait faire un bruit épouvantable. C'était dur, ça grinçait. Et là, eh bien, eux, ils vont chercher la communion avec Dieu. Et cet homme, Ézéchias, va amener d'autres avec lui pour faire cela. La communion avec Dieu. Il ne se laissera pas rebuter par le grincement des portes. Parfois on dit, non Seigneur, tu vois, je n'y arrive pas parce que les portes grincent tellement, je ne vais pas pouvoir enlever toute cette poussière qui est devenue presque de la terre, tellement il y en a. C'est vrai, la poussière gagne vite. Vous qui avez un ordinateur, vous devez vous en rendre compte, ou même autre chose que l'ordinateur, même la télévision ou autre chose, ça attire vraiment la poussière, ces engins électriques. Eh bien, il faut vraiment qu'il y ait un dépoussiérage, mais quelque chose de fantastique. Alors, il va les réparer. De nos jours, les réparations, ça existe de moins en moins. Si vous allez amener quelque chose chez un commerçant en disant « Est-ce que vous pouvez me réparer tel outil, telle machine ?» Eh bien, oula, non, vous voyez, ça ne vit pas beaucoup plus que le temps que vous l'avez eu. Maintenant, on vous vend autre chose. C'est continuellement cela. Mais heureusement, il y a quelques personnes maintenant qui commencent à réparer. Et même parfois, j'ai entendu dire qu'il y avait même du bénévolat. Vous vous rendez compte, hein? Il les répara donc ces portes, afin que d'autres puissent le suivre. Parce que si la porte reste fermée, personne ne va pouvoir entrer. Mais là, il fallait qu'il y en ait d'autres qui viennent dans le temple de l'Éternel, dans un temple ouvert. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi. Ce n'est pas rebuter les gens qui nous entourent, en leur disant, oh, vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas facile, hein. Vous verrez, ce sont des moments très difficiles, et si vous n'arriverez peut-être pas à suivre. Non, il faut un temple ouvert. Venez écouter la parole de Dieu. Venez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ah, que le Seigneur a été merveilleux quand il nous a donné toutes ces paroles. Et au verset 5, mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Alors qu'il en soit ainsi pour nous aussi. L'entrée ne suffit pas, c'est beau, c'est bien d'entrer. Mais après, il faut avancer, il faut continuer, avec courage, en éloignant les impuretés. Ou vous allez me dire, ça c'est difficile, hein. C'est vrai. même après peut-être 50 ans de conversion, il y a encore des impuretés qui peuvent venir dans notre cœur. Et il peut y avoir des choses difficiles, mais le Seigneur vient pour nous aider à les enlever, ces impuretés. Et lui, il nous a donné ce sang précieux qui nous purifie de tout péché. Au verset 16, les sacrificateurs vont mettre ces impuretés dans le parvis et les Lévites vont les emporter au torrent du Cédron dehors. Chacun est appelé à être participant. Dieu nous dit que tout ce que l'homme veut faire sans lui n'est que impureté. Oh, on voudrait faire bien des bonnes choses, mais notre nature n'est pas tellement qualifiée pour cela. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire pour nous de si belles choses. Et il y a eu 8 jours de purification. Vous allez me dire, 8 jours, c'est pas trop long, mais c'est quand même long. 8 jours entiers de purification. Un balayage extraordinaire. Il n'y avait pas d'aspirateur. Un balayage, un nettoyage, tout ce qu'il y a, et tout devait briller ensuite. Quelle finition! Quand le Seigneur nous demande quelque chose, est-ce que nous rechignons en disant « Seigneur, mais je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile, mais Seigneur, tu m'encourages quand même, ça commence à briller, ça commence !»« Ah oui, Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait dans mon cœur, il y a des choses qui n'y sont plus maintenant !» Le diable écoute à la porte et dit « Attends, tu vas voir, ça va revenir !» Eh bien non, parce que le sang de Jésus me purifie de tout péché. La délivrance du Seigneur est là. Oui, il y a un grand balayage et il est en train de se faire. Quelle finition! Mais le temple ne doit pas rester vide ensuite, parce qu'un temple vide, ce n'est pas vraiment un temple, n'est-ce pas? Et il faut vraiment qu'il y ait la vie à l'intérieur. Une église vide n'est pas une église où on ira facilement, peut-être pour voir comme c'est beau, puis tout cela. Mais une chose, si vous avez la vie en vous-même, eh bien, cela va attirer les personnes à venir aussi, vous rencontrer, à venir faire des expériences avec vous. Et vous serez tellement heureux, vous aussi. Nous serons tellement heureux de voir des personnes nouvelles et nous serons tellement heureux de voir le Seigneur faire son œuvre. Au verset 10, j'ai donc l'intention de faire alliance, j'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà ce qu'il va dire à ce roi. Pour que son ardente colère se détourne de nous. Donc j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Oui, c'est vraiment quelque chose de précis, de tout près, tout proche de nous. Ézéchias a la foi. Et il n'a espoir qu'en Dieu, celui d'Israël. Il sait que Dieu est bon et détournera d'eux sa colère. Il a la foi, Ézéchias. Est-ce que nous avons, nous aussi, cette foi que Dieu est capable de tout transformer? Oui, alléluia, qu'il en soit ainsi. Au verset 11, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. » Vous allez me dire, mais je ne suis pas négligent. Et pourtant, eh bien, Ézéchias avait vu cela, qu'il y en avait déjà qui commençaient à être négligents. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui étaient négligents avant. Cessez d'être négligent. C'est un verset important, celui-là. Vous voyez, je relis. Mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Cessez d'être négligent. Que je cesse aussi d'être négligent, de me dire, « Oh Seigneur, tu te contenteras de ceci, de cela. » Non, le Seigneur veut davantage dans notre vie. Et il y a un maintenant, c'est un départ. L'éloignement d'Israël était dû justement à la négligence. On avait dit, « Eh bien, je le ferai demain matin. » Non, eh bien, le lendemain ne nous appartient pas. Vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service. C'est toi, c'est moi qui ont été choisis pour être au service de l'Éternel, devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums, la louange, l'adoration, pour être ses serviteurs, le servir quand il nous demande de faire quelque chose. Nous sommes choisis par Dieu. Quel honneur d'être choisis par le Seigneur. Vous ne trouvez pas? Quand le Seigneur nous a choisis, eh bien, nous ne méritions rien et nous en rendons bien compte encore. C'est un honneur. Pour un service devant lui comme serviteur, et nous sommes tous serviteurs de l'Éternel, la gloire, les parfums sont à Dieu. Et au verset 36, on ne l'a pas lu, mais voilà ce qui est écrit. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, la chose se fit subitement. Parfois, nous décourageons et nous disons, Seigneur, tu vois, nous ne voyons rien venir, il n'y a pas de choses nouvelles. Je prie, mais rien, aucune suite. Eh bien, le Seigneur nous rappelle cela. La chose se fit subitement. Subitement, tout à coup, la bénédiction de Dieu descend. C'est comme un réveil. C'est l'action de l'Esprit. Et Dieu veut envoyer son Esprit dans son Église, parmi ses enfants. Et je terminerai, je ne suis pas très long, je crois, mais ça ne fait rien, pourvu que le message puisse passer, au chapitre 30 et au verset 8. Chapitre 30, verset 8, voilà ce qui est dit. Ne raidissez pas donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel et venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours et servez l'Éternel votre Dieu. Donnez la main à l'Éternel. Quand vous voyez les enfants qui donnent la main à leurs parents, à leur papa ou à leur maman, c'est tellement joli à voir. Cette main, petite main, mise dans la grosse main du papa, qui le tient sans le serrer fort, bien sûr, simplement pour lui montrer qu'il est là, eh bien, pour nous aussi, nous avons un Dieu qui est fort, un Dieu qui est vraiment, qui a vraiment toute la direction de notre vie. Donnez la main à l'Éternel et servez l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Servez l'Éternel, votre Dieu. Je vais lire aussi le verset 8 et 9. Attendez, 8 et 9. Oui, j'ai déjà lu cela. Verset 9 aussi. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant, miséricordieux, il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Alors, comprenons bien que l'Éternel est prêt à nous bénir si nous revenons à lui, et vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, donc il va y en avoir d'autres qui reviendront. Ils reviendront dans ce pays. L'Éternel, votre Dieu, est compatissant, miséricordieux, et le Seigneur bénira pour qu'il y ait des personnes qui reviennent à lui. Je ne sais pas, mais certainement vous devez prier pour des personnes qui ont quitté le Seigneur. Nous, dans notre famille, on a quelques personnes qui ont quitté le Seigneur, malheureusement. Et je pense à un beau-frère et une belle-sœur. Ça fait déjà 10 ans qu'ils ont quitté le Seigneur. Comme ça nous fait de la peine. Tous les jours, nous les apportons au Seigneur et nous disons, Seigneur, interviens. Seigneur, bénis. Seigneur, transforme ces cœurs. Ils ont été trompés par l'ennemi. Mais l'Éternel peut faire cela subitement. Ah oui, et je me souviens, cette belle-sœur, elle avait déjà eu une révélation de la part de Dieu. Je ne sais plus exactement comment, mais le Seigneur lui avait parlé d'une façon merveilleuse. Et elle était venue au Seigneur suite à cela. Et le Seigneur peut faire encore des choses aussi merveilleuses, même dans vos familles. Alléluia. Et au chapitre 30, eh bien, il y a l'action, vraiment. On voit ce peuple qui cherche de tout son cœur. Et au chapitre 31, verset 20, qu'est-ce qu'il est écrit là? Verset 20. Voici ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Ah, ça, c'est un bon témoignage. Est-ce que nous voulons un bon témoignage de nos frères et sœurs autour de nous? Je pense que oui. Si tout à coup on entend dire, oh là, ce frère, cette sœur, ou la catastrophe, c'est terrible, et il fait ceci, il fait cela, oh non Seigneur, nous ne voulons pas entendre cela, nous voulons simplement non pas entendre des choses forcément qui vont nous faire tellement du bien que on va se laisser bercer par cela, non, mais que le Seigneur soit, lui, glorifié, et que nous puissions vraiment le servir jusqu'au bout. Oui, au chapitre 30, il y a l'action. Et pour nous, si vous voulez regarder chez vous après, donc 2 Chroniques, chapitre 30, eh bien, vous verrez combien le Seigneur fait du bien à son peuple. Il veut nous bénir. Il y aura une grande joie. Il louait l'Éternel avec les instruments qui retentissaient à son honneur. Et Ézéchias était là pour diriger tout cela par la main de Dieu. Oui, nous sommes bien petits, bien faibles, mais nous aussi, nous pouvons être de ceux qui vont être là pour aider nos frères et sœurs dans la bonne voie. Oh, le Seigneur a bien des choses qu'il peut nous montrer. Un nettoyage dans une maison, eh bien, il est décidé d'avance. Vous allez me dire, oh, j'avais décidé peut-être de faire le nettoyage la semaine passée, et voilà que tout à coup, eh bien, il y a eu des difficultés autrement, et puis c'est passé, et je n'ai pas fait ce nettoyage. Mais alors, on peut toujours le faire maintenant. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Un nettoyage dans notre vie. Oh oui, ça fait du bien. Et le Seigneur va nous bénir. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous savons que tu as des choses merveilleuses que tu peux donner à tes bien-aimés. Nous ne sommes pas grand-chose, Seigneur, mais nous sommes fils et filles du roi aussi. Et toi, tu es un roi fidèle et glorieux. Tu es un roi merveilleux qui nous apportera de grandes choses. Et Seigneur, maintenant, nous voulons nous laisser visiter par ce désir de voir des âmes sauvées, des cœurs transformés, des personnes qui reviennent vers toi. Seigneur, tu bénis cette assemblée et nous te louons. Seigneur, tu bénis cette chapelle de l'espoir qui est vraiment un espoir qui renaisse. Alléluia. Que le nom de Jésus puisse être manifesté et que tu bénisses chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Jésus, viens et remplis-nous de ton Saint-Esprit et que nous soyons vraiment à ton honneur. Que le témoignage de chacun soit là. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a encore un chant, je crois. Oui, gloire à Dieu.